Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour et bienvenue dans cette grande édition de midi à la présentation Lievin Bouinga. D'abord les titres, évacuation des produits agricoles du secteur Mouero dans le territoire de Poueto, un casse-tête pour les agriculteurs et pour cause, les routes de desserte agricole sont dans un état de dégradation avancée. L'agronome principal de ce secteur du Haut-Katanga lance un SOS. Daniel Moukoko pour l'élargissement des services financiers en milieux ruraux en RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, s'est exprimé à la 17e conférence annuelle des banquiers et des financiers qui se tient à Abuja, au Nigeria. Vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal également, les explications du représentant résident de ONU Femmes en RDC, Adama Moussa, vient de participer à la 7e édition des ministres provinciaux et des chefs de division du genre à Matadi. Vous avez compris, il est l'invité de Radio Okapi. Encore une fois, bonjour. Le secteur Mouero dans le territoire de Poueto, province du Haut-Katanga, confronté aux difficultés d'évacuation des produits agricoles et pour cause, les routes de desserte agricole et celles qui mènent vers Kasomeno pour atteindre la ville de Lubumbashi sont dans un état de dégradation avancée. L'agronome principal du secteur lance un SOS. Il plaide pour la réhabilitation de ces voies car certains agriculteurs se découragent et assistent impuissants à la détérioration des fruits de leur récolte. Jean Gandou pour les détails.
Les principaux groupements où la production agricole est abondante sont notamment Kilomba, Mukupa, Mulimba et Kiala. On y cultive entre autres le riz et les haricots. D'après l'agronome du secteur, la production du maïs a sensiblement baissé car jugée non rentable. Un seau de 2,5 kg de maïs revient à 3 000 voire 3 500 francs congolais, pendant que la même mesure de riz coûte 6 000 voire 6 500 francs congolais. Et le principal centre de consommation est la ville de Lubumbashi. Cependant, les routes des dessertes agricoles sont en dégradation avancée. Conséquence, il y a des produits agricoles qui pourrissent. Certains agriculteurs qui perdent les fruits de leur labeur se découragent, nous renseigne l'agronome du secteur. Voilà pourquoi il lance un SOS aux autorités provinciales. Faustin Kabondo.
La production est bonne, mais ça décourage quand même du fait que vous cultivez beaucoup, mais pour évacuer, c'est tout un problème. La route numéro 5, à partir de Kasomeno jusqu'à Poueto, si le gouvernement ne se penche pas à ce point-là, pendant la pluie, il n'y aura pas de communication. Vous risquerez de faire des semaines ou un mois pour arriver à Lubumbashi.
Et pour contourner ces difficultés, il y en a qui recourent aux barges pour atteindre Kasenga et dès là, ils font transporter leurs produits dans les véhicules jusqu'à Lubumbashi. Une tâche qui n'est pas du tout aisée, souligne Faustin Kabondo. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Après l'alerte du CNOD sur le cauchemar des habitants de Kananga suite au retour des pluies, l'office de voirie et drainage indique ne pas avoir plus de ressources pour stopper différentes érosions. D'après le directeur professionnel de l'OVD Kasaï Central, les 30% de fonds alloués par le FONER pour des travaux d'urgence sur la ville se sont épuisés. Jimmy Kula indique que des plaidoyers sont menés pour que le reste de l'argent soit débloqué afin de permettre à l'OVD de continuer et de stopper certaines érosions qui menacent la ville. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Nous n'avons plus de fonds. Sur ce, nous avons sonné la sonnette d'alarme, nous avons écrit à l'autorité provinciale ainsi qu'à l'autorité nationale. Nationale, nous voyons la direction générale de l'OVD et par la direction générale, nous voyons aussi au-dessus de le ministère de tutelle, le ministère des ITP qui a sous sa tutelle le FONER qui a eu à débloquer les moyens pour que il y ait une suite de mise à disposition de fonds. À ce jour, nous pouvons dire que nous sommes toujours en attente. C'est la raison d'être de l'arrêt des travaux sur tous les sites. Nous avions circoncis des sites qui étaient vraiment touchés. À l'occurrence, Kanyoka Village, Asda, ISTK, là où la route était complètement coupée. Bianchi aussi, c'est une grande érosion. Il y a Efo, la route d'Efo. Et le dernier site dont nous avions couplé, c'est l'avenue Kambala ainsi que le site Kamulumba où il y a des entretiens. Ce sont là les sites que nous avions ciblés pour travailler en urgence.
La présence des groupes armés et les conflits fonciers permanents dans le territoire de l'Oubéro, de véritables obstacles pour les activités entrepreneuriales des éleveurs locaux et des agriculteurs, affirment ces derniers. Tenez, certains d'entre eux sont obligés d'abandonner leurs champs suite à la menace des assaillants. D'autres victimes de divers conflits fonciers enregistrent des pertes énormes dans leurs installations. Plusieurs agriculteurs parlent de léthargie des pouvoirs publics qui se manifestent par une absence de l'autorité de l'État à l'Oubéro. Ils en appellent ainsi à la restauration de l'autorité de l'État dans cette région. Denise Loukesso.
Beaucoup de fermiers aujourd'hui dans les territoires de l'Oubéro ont fermé leur pâturage, tout comme certains agriculteurs aussi, également abandonné leur zone agricole suite à l'insécurité qui prévaut. Certains fermiers qui résistent sont soumis au paiement des taxes illégales par les groupes armés. Une situation qui plonge l'élevage et l'agriculture à la baisse. Alors que la région de l'Oubéro était réputée autrefois zone florissante en élevage et agriculture. Ndungo Manzekele Bosco, gérant de l'entreprise agricole Tsitsanga Farm MSK, une des entreprises victimes qui a fermé ses portes une année bientôt.
Tous les élevages sont à Paris, les bêtes sont consommées et surtout qu'on ne permet pas aux exploitants de fréquenter leurs champs. Et c'est ce qui fait que toutes les fermes sont en faillite. Et avoir de près, vous constaterez avec moi que toutes les bêtes vendues sur le marché en territoire de l'Oubéro et Béni sont importées, alors que c'est une zone où l'élevage, l'agriculture était vraiment florissante. Maintenant, vraiment, on ne sait plus comment évoluer dans l'entrepreneuriat agricole.
Goma, Denise Loukesso, Radio Okapi.
17e conférence annuelle des banquiers et des financiers à Abuja au Nigeria avec ce constat du vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui représente le chef de l'État. Pour Daniel Moukoko, notre économie est encore en cours de formalisation et l'accès aux services banquiers reste limité, notamment dans les zones rurales. Le secteur informel domine encore largement, ce qui rend difficile pour de nombreuses petites entreprises d'accéder aux financements nécessaires à leur croissance, affirme-t-il. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, ajoute que la coopération entre les deux pays permettra de relever les défis de l'élargissement de l'accès aux services financiers et l'inclusion bancaire, surtout en milieu ruraux. Il le dit dans cet extrait.
J'ai donc pris part à cette 17e conférence de l'Association nigériane des banques pour représenter le chef de l'État qui avait été invité par cette association. Le message du chef de l'État que j'ai délivré aujourd'hui, c'est un message de collaboration, un appel à la collaboration, au partenariat entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Comme vous le savez certainement, parce que nous avons déjà en RDC la présence de 4 ou 5 banques nigérianes, le Nigeria a en effet bâti un système financier national solide avec des banques nigérianes qui sont aujourd'hui en international. Et il est clair que la RDC a beaucoup à apprendre du Nigeria, notamment dans des domaines comme l'inclusion financière, parce que le taux d'accessibilité aux services financiers est trop faible chez nous, surtout dans les milieux ruraux, qui en ont déjà développé des produits, des instruments qui leur permettent de faire accéder aux services financiers même les populations les plus reculées.
Éducation à présent, les conséquences se font sentir au lendemain du lancement de la grève des inspecteurs, cadres, agents ainsi que des intervenants aux évaluations certificatives des documents scolaires seraient par exemple abandonnés au niveau des signataires. Ces grévistes réclament notamment le paiement de leurs primes. L'inspecteur général de l'éducation nationale assure que le gouvernement s'attelle déjà pour une solution idoine aux revendications des grévistes. C'est un reportage de Blaise Ndongala.
Réunis au sein du syndicat des administratifs et enseignants du Congo, SIADEC, ces grévistes, parmi lesquels les compositeurs, examinateurs et correcteurs des épreuves certificatives, se disent être fatigués d'attendre les promesses du gouvernement. Ils se plaignent également de l'indifférence de l'État malgré leur volonté de travailler pour le pays, comme indique l'un d'eux, Angèle Paenzo.
À la première ministre, chef du gouvernement, de payer aux inspecteurs et intervenants aux examens d'État les arriérés de leur prime 2. Centre national d'organisation CENON 2022 et 2024. Centre national de correction CNC 2022-2023 et 2024. ENAFEP 2021-2022-2023 et 2024. TENASOSPE 2022-2023 et 2024.
Pour sa part, l'inspecteur général de l'éducation assure que le gouvernement s'attelle pour répondre aux désidératas non seulement des inspecteurs, mais également de tous les enseignants. Odia Musungai.
Je confirme qu'on paye incessamment une partie des TENAFEP. Les solutions sont là. J'espère que nous irons comme ça, sans relâche.
Certains parents de Kinshasa disent déjà être en difficulté de retirer les documents scolaires de leurs enfants à l'inspection générale de l'éducation à la suite de cette grève.
Direction Maniema, où une trentaine d'enfants tirés de quelques orphelinats de Kindu retrouvent le sourire. Ils ont reçu des fournitures scolaires et une enveloppe pour les aider à reprendre les cours. Ce geste de cœur porte la signature de la génération George Okanda Unga Yoshiko. La cérémonie de remise a eu lieu lundi dans la commune de Mikelenge. Florence Kizalunga pour le reportage.
Outre l'enveloppe pour les frais scolaires, chaque kit remis est constitué d'un sac d'écolier, chaussures, chaussettes, cahiers et stylos. Les bénéficiaires saluent ces gestes qui interviennent au bon moment. L'un d'eux témoigne.
Doter les orphelins et orphelines, les fournitures scolaires et surtout la conjoncture d'aujourd'hui. Les enfants ont chômé toute une semaine de la rentrée scolaire, mais aussitôt qu'ils viennent d'être dotés parce qu'il manquait ces fournitures, je crois et j'ai l'impression qu'à partir de demain, ils vont accéder à l'école. Voilà pourquoi. Nous ne cesserons pas de lui remercier.
Pour les coordonnateurs, ces gestes ont un but humanitaire et non politique. Ali Djuma Morton est son représentant.
Ça, c'est un geste du donateur ingénieur George Okanda Yoshiko. Pour lui, c'est sa façon d'assister les orphelins à chaque rentrée scolaire pour recevoir des kits scolaires, y compris une partie du frais scolaire. C'est l'effet humanitaire. Et pour lui, assister les orphelins, c'est parmi ses priorités. C'est la façon dont il trouve sa bénédiction aussi. Ce n'est pas politique, c'est humanitaire.
Les orphelins bénéficiaires de ce don invitent d'autres personnes de bonne volonté à suivre ces bons exemples de charité. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Découverte macabre d'environ 20 corps mardi dans les localités de Lianga en Ituri, selon des activistes de droits humains dans la région qui citent des rescapés. Ces personnes ont été abattues dans la nuit de dimanche à lundi par des maïmaï de la faction Nduma UPLC, un groupe armé supplétif des rebelles des ADF. Parmi les victimes, il y a 4 femmes et des enfants, dont la plupart ont été décapités. Précisent les mêmes sources, l'administrateur du territoire de Mambasa promet de vérifier ces informations auprès de ses services avant de se prononcer. Entre-temps, les acteurs de la société civile sollicitent l'intervention des autorités militaires pour aller chercher les corps des victimes qui gisent toujours au sol sous le lieu du drame. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Sécurité encore, de nouveaux affrontements opposent les rebelles du M23 aux groupes armés locaux dans les environs de Kichanga au Nord Kivu. C'est notamment dans les groupements de Bukombo et Bishusha, territoire de Rutshuru. Cette situation crée une panique dans la cité de Kichanga. Bernard Denyang.
C'est autour du pont Sissa et dans le village Kizimba, à 7 km de Kichanga, que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la matinée ce mercredi. C'est dans le groupement de Bukombo, territoire de Rutshuru. Selon certaines sources locales, ces affrontements opposant les rebelles du 1-23 aux combattants VDP Wazalendo se sont étendus du coup à d'autres villages du groupement voisin de Bishusha, toujours dans le Rutshuru. D'autres sources ajoutent qu'un autre groupe de jeunes Wazalendo aurait fait un autre assaut pendant les mêmes heures matinales au centre de Kichanga. Les habitants du milieu auraient ainsi passé la matinée enfermés dans leur maison, indiquent ces sources. Rappelons que ceci intervient après au moins 3 jours de combat entre les rebelles du 1-23 et les groupes armés locaux dans plusieurs agglomérations du groupement Bachali Kaembe en territoire de Masisi. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
C'en est fini avec la formation de 103 officiers de la police judiciaire à Chipuka, au Kasaï oriental. Une formation de 3 mois organisée par l'Organisation internationale des migrations, OIM, qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de police de proximité et professionnalisation de la police financée par le département d'État américain. Je vous signale que le gouverneur de province a présidé cette cérémonie de clôture officielle. Explication avec Esther Ndalafina.
Sur les 103 officiers de police judiciaire admis à l'école de police de Chipuka, à plus ou moins 20 km de Mbujimayi, 91 ont réussi au test d'évaluation. Parmi eux, 15 policiers proviennent des 5 territoires que compte la province du Kasaï oriental. Ils ont à cette même occasion prêté serment auprès du procureur de la République du parquet près le tribunal tribunal de grande instance de Chilengue. Maître Pierrot Ntumba, assistant au projet gouvernance sécuritaire à l'OIM Kasaï Oriental, a indiqué que durant 3 mois de formation, ces officiers de police judiciaire ont appris plusieurs notions, dont notamment le droit pénal général et spécial, la procédure pénale, les techniques d'enquête criminelle, la rédaction des procès verbaux, pour ne citer que ça. Le gouverneur de province qui a présidé la cérémonie de clôture a demandé à ses officiers d'être juste, honnête, loyal et respectueux des textes et lois de la République. Signalons que cette formation est la 6e phase du projet de police de proximité et professionnalisation de la police implémenté par l'OIM avec le financement du département d'État américain via le Bureau international de lutte contre les stupéfiants et l'application des lois INL. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Au retour à Kinshasa, l'ancien ministre de la Santé publique, Dr Oli Ilunga, a quitté lundi la prison centrale de Makala. Après avoir purgé sa peine, il avait été condamné le 23 mars 2020 à 5 ans des travaux forcés par la Cour de cassation. Celle-ci l'avait reconnu coupable de malversations financières dans la gestion des fonds alloués à la lutte contre l'épidémie à virus Ebola en RDC. La Cour l'avait également interdit d'accès aux fonctions publiques au terme de sa peine à une libération conditionnelle et à la réduction de sa peine durant son emprisonnement. Donc il ne pourra pas concourir à un vote quelconque pendant 5 ans. Ministre de la Santé entre 2016 et 2019, Oli Ilunga avait démissionné de ce poste le 22 juillet 2019 après les accusations relatives à la mauvaise gestion des fonds dans la riposte d'Ebola. Et c'était le 14 septembre 2019 que la coordination de la police judiciaire l'avait placé en garde à vue avant son procès. Autre nouvelle, au Nord Kivu, la ville de Beni, qui abrite près d'un million d'habitants, se développe rapidement. Du coup, elle est confrontée à un défi majeur, l'absence de numérotation des parcelles pour la plupart des adresses. Cette situation complique non seulement la vie quotidienne des résidents et des visiteurs, mais elle rend également difficile la localisation des lieux, ce qui pose de sérieux problèmes en cas d'intervention d'urgence des forces de défense et de sécurité. C'est un reportage de Martial Papi Mukeba.
À Beni, les rues et avenues sont inondées de monde, mais un problème persistant assombrit le dynamisme de cette ville, l'impossibilité de localiser une adresse. En l'absence des noms de rues claires et des numérotations des parcelles, trouver la personne ou le service recherché devient un véritable casse-tête. Une situation qui amplifie également la vulnérabilité des habitants, comme l'explique cet habitant.
Nous n'avons pas de numérotation sur nos maisons, mais aussi il y a des avenues où vous n'allez pas trouver même les noms. Quand il faut donner l'adresse aux gens même de la sécurité, ils ont même les difficultés de venir vous secourir parce que tout simplement, nous n'avons pas de référence dans cette ville.
Face à ces problèmes, le bourgmestre de la commune de Moulekera a lancé récemment une opération de numérotation des parcelles dans sa municipalité, souvent secouée par l'insécurité. Diedoné Mayanga précise.
C'est un moyen d'aider à nos services de sécurité, de pouvoir intervenir avec précision sur les avenues bien dénommées. L'opération est en cours.
En attendant, chaque coin de Beni sans repère montre que le chemin vers une ville ordonnée reste long. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Depuis 4 semaines, le Tchad est frappé par de graves inondations, particulièrement dans la capitale N'Djamena. Les quartiers périphériques sont déjà en grande partie submergés et la population redoute une aggravation de la situation si le niveau des eaux du fleuve Chari continue de monter.
L'invité.
Le représentant résident de ONU Femmes en RDC, Adama Moussa, a participé à la 7e édition des ministres provinciaux et des chefs de division du genre à Matadi. Dans cet entretien qu'il a accordé à Karine Toperidassi, il parle de 3 mandats de ONU en RDC avec ses interventions dans les 5 grands domaines critiques où les inégalités envers les femmes sont criantes. Suivez.
Monsieur Adama Moussa, bonjour.
Bonjour.
L'ONU Femmes accompagne le gouvernement dans sa lutte pour la promotion du genre ainsi que pour la promotion et la protection des droits des femmes. Pouvez-vous nous décrire la nature de l'accompagnement d'abord de ONU Femmes mais aussi du collectif One UN en RDC?
Je crois que ce qui est important, c'est déjà de comprendre le mandat de ONU Femmes. ONU Femmes a 3 mandats, ce qu'on appelle le tripartite mandate. Ce mandat porte sur l'amélioration du cadre normatif, c'est-à-dire tout ce qui concerne les politiques, les stratégies, en lien avec le cadre international. Un appui au gouvernement, c'est vraiment l'amélioration du cadre normatif. Le deuxième appui, c'est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de coordination, parce que vous avez beaucoup d'intervenants dans le domaine du genre. Donc il était extrêmement important pour nous, en tant qu'agence normative, de pouvoir accompagner le gouvernement dans le cadre de notre mandat de coordination. Ce qui explique aujourd'hui, par exemple, ces deux forums. Et notre troisième mandat, c'est un mandat opérationnel. Un mandat opérationnel, c'est là où on a des gaps importants. C'est-à-dire quand on analyse les politiques, les stratégies, les interventions, on se rend compte que les inégalités déjà sont critiques dans quelques domaines. Et pour la RDC, on a identifié 4-5 domaines critiques pour lesquels il nous faut avoir des interventions. Et ces interventions sont faites sous forme de projets catalytiques, sous forme de projets conjoints, en partenariat avec les autres partenaires.
Quels sont les domaines critiques?
Le premier domaine, c'est la participation politique et le leadership féminin. C'est-à-dire que si vous regardez les statistiques en RDC, mais aussi dans l'ensemble de ces pays, vous allez trouver que la sous-représentativité des femmes, que ce soit au niveau des instances de prise de décision, électives comme nominatives, est extrêmement criante. Donc ça devient un domaine critique d'intervention verticale de l'ONIFEM. Le deuxième domaine critique par rapport surtout à l'intervention de l'ONIFEM, c'est tout ce qui concerne la réduction de la vulnérabilité économique des femmes. On sait que les femmes ont très peu de ressources économiques qui leur permettent d'améliorer les conditions de vie. Donc l'amélioration des conditions de vie à travers la mise à disposition des ressources, que ce soit les ressources financières, est un domaine extrêmement important. Parce que vous ne pouvez pas demander ou exiger de la promotion des femmes sans réduire la vulnérabilité économique. Donc ça, c'est le deuxième domaine critique. Le troisième domaine critique, c'est la violence. Vous savez, quand vous prenez les statistiques, un cas de violence est déjà un cas de trop. Mais par rapport à la République démocratique du Congo, toutes les statistiques démontrent qu'on a vraiment dépassé tout ce qui est du seuil même tolérable en termes de violence. S'il y a des seuils tolérables, il n'y en a pas. Et ce qui fait que les violences sont rampantes. Que ce soit les violences liées au conflit, que ce soit les violences domestiques, que ce soit les violences physiques, que ce soit les violences économiques, c'est un domaine réellement critique en RDC. Vous ne pouvez pas demander la participation politique des femmes dans un environnement où elles ne se sentent pas sécurisées, où elles ne se sentent pas à l'aise pour jouir de l'ensemble de leurs droits. Les questions femmes, paix et sécurité, vous avez beaucoup de processus de paix, leur implication, leur adhésion, que ce soit en termes d'actrice de la paix, ça c'est aussi un domaine critique. Et le dernier domaine, c'est la question de l'humanitaire. Vous voyez un peu tous les flux en termes de mouvement des populations déplacées. Les femmes constituent pratiquement 60 à 70% des populations déplacées. Pour nous, c'est un domaine critique. Voilà les 5 domaines critiques où nous pensons que les inégalités déjà sont criantes, où nous développons des interventions, et c'est ce qu'on appelle notre mandat opérationnel.
Et vous avez affirmé dans votre mot d'ouverture de la 7e édition du Forum des ministres provinciaux et chefs de division de genre que l'intégration effective du genre dans les politiques publiques est une question de justice sociale. Qu'entendez-vous par le terme justice sociale?
Vous savez, il y a deux choses quand on travaille sur les inégalités. Il y a les inégalités de juré, donc ce qui est dans la loi, et il y a les inégalités de facto. Les inégalités de juré sont généralement corrigées quand on adopte un certain nombre de textes réglementaires ou de textes juridiques pour corriger ces inégalités-là. Les inégalités de facto sont des inégalités qui sont vécues dans le quotidien. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on a un cadre normatif réel, ces inégalités persistent. Donc la question de la justice sociale intervient. C'est-à-dire qu'avant, on disait que les femmes ont droit à. On élabore des lois, on leur propose des droits pour mieux les protéger. Malgré tout ça, on se rend compte que les femmes ne jouissent pas ces droits-là. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde qui peut dire qu'il peut se développer sans la contribution significative des femmes. Donc la question de la justice sociale, c'est la reconnaissance de cette contribution-là en termes de droits.
Monsieur Adama Moussa, je vous dis merci.
Merci à vous aussi, madame.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Si vous l'avez aimé, je vous dis tout de suite qu'il a été réalisé grâce à Pelé Kipela Mundo, Élisée Chikota et Polydor Basunga.